est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. La France salue la tenue des élections au Liban et appelle à la formation rapide d'un gouvernement. L'analyse du scrutin avec la journaliste Randa Takieddine. Des tempêtes de sable dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont entraîné des perturbations dans l'espace aérien. Le Maroc a supprimé l'obligation du test PCR pour entrer sur son territoire. Dans ce journal, coup de projecteur sur les Émirats Arabes Unis, présidés depuis ce week-end par Mohamed Ben Zayed, avec le politologue Qatar Abou Diab. Enfin, après la décision de la mairie de Grenoble d'autoriser le burkini dans les piscines, Gérald Darmanin dénonce une inacceptable provocation communautaire. La France salue la tenue des élections au Liban à la date prévue. Le Quai d'Orsay estime que le Liban a franchi une étape importante dans le contexte de crise grave que connaît le pays depuis plus de 2 ans. Dans son communiqué, le ministère français des Affaires étrangères encourage l'ensemble des responsables libanais à désigner sans délai un président du Conseil des ministres et à former un nouveau gouvernement, un gouvernement qui pourra prendre les mesures nécessaires au redressement du Liban. Un scrutin marqué par une percée significative de l'opposition et l'élection de candidats indépendants, alors que l'alliance menée par le Hezbollah a perdu la majorité au Parlement. Je vous propose d'écouter l'analyse de la journaliste Randa Takieddine, jointe ce matin à Beyrouth.
Il y a de très bonnes choses et quand même la situation est tellement désastreuse que l'espoir donné par les élections au Liban n'est vraiment pas suffisant. C'est-à-dire que quand même il y a eu des indépendants qui ont été élus, il y a eu une quinzaine d'indépendants qui ont été élus, et les symboles de l'alliance avec la Syrie et l'Iran sont tombés. Je veux dire ici quelques députés comme Elie Ferzli, Asad Hardan, Wiham Wahab et Talal Aslan sont des alliés à Bachar al-Assad. Ceux-là ont échoué aux élections. Ce n'est pas mal. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol de cette alliance. Et ensuite, ce que je pense, c'est que le Liban, comment il va s'en sortir? C'est ça ma question. Il y a des choses qui priment. C'est vrai que le Hezbollah a gardé ses 27 députés, mais qu'il a perdu sa majorité. Mais quand même, moi j'ai peur des blocages. C'est-à-dire, demain, il y aura l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée. Est-ce que ça va être de nouveau Nabih Berri, les forces libanaises, les forces de Aoun et les indépendants ne voudront pas que cet allié du Hezbollah qui est là depuis 30 ans revienne. Comment est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? Le Hezbollah va encore imposer quelqu'un ou lui ou un autre pour diriger le Parlement.
Est-ce qu'il y a une majorité claire pour former un prochain gouvernement?
Non. Moi, je ne la vois pas. Il n'y a pas de majorité claire. Donc, il faut qu'il y ait des unions entre les indépendants et d'autres. Je ne sais pas comment ça va se faire. Franchement, beaucoup de questions se posent. En plus, l'absence de Hariri du camp sunnite a fait que c'est un peu éparpillé, complètement éparpillé. Il y a parti par là, des sunnites qui ont passé, mais on ne sait pas très bien. Il n'y a pas vraiment une figure sunnite qui a émergé. pas du tout.
Est-ce qu'on connaît ces indépendants? Est-ce qu'on sait quelle sera leur action?
Écoutez, il y a quelques indépendants qu'on connaît, qui ont été très actifs. Il y a d'autres indépendants qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Tout ça, ça, ce sont des questions qui se posent. Il y a certains indépendants, dans le Souffle, par exemple, à Alais, un monsieur que je connais, qui a très bonne réputation, qui lui peut faire des choses. Il s'appelle Marc Daou. Maintenant, il y en a d'autres qu'on connaît qui ont été au Parlement et qui ont démissionné. Paul Aya Oubian. Il y a des gens qui ont fait leur preuve. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. On va voir ce que ça va donner.
La France a appelé à la formation d'un gouvernement sans délai pour mener à bien les réformes nécessaires. Est-ce que vous êtes optimiste sur la formation rapide d'un gouvernement?
Non. Tout prend du temps ici. Tout prend du temps. Ça va être des oppositions et des blocages. Et non, je ne suis pas du tout optimiste là-dessus. Pas du tout optimiste.
Vous êtes à Beyrouth. Quel est le sentiment des Libanais qui vivent une crise extrêmement grave? Est-ce qu'ils sont rassurés par la tenue de ces élections législatives?
Pas du tout. Ils sont contents qu'il y ait de nouveaux visages, mais ils se posent des questions. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils sont contents que Hezbollah n'a pas la majorité, mais ils savent très bien que Hezbollah peut faire du blocage et continuer à faire des pressions pour faire ce qu'il veut. Vous savez, les Libanais sont quand même, ils souffrent. C'est un peuple qui souffre en ce moment. Ils souffrent beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que il y a quelques indépendants qui ont été élus, qu'ils sont sortis de leurs problèmes. Les problèmes de tous les jours. D'ailleurs, les élections ont eu lieu, le dollar a dépassé 30 000 livres. Donc, vous savez, c'est terrible, quoi.
La journaliste Randa Takieddine. Le gouvernement de Tripoli en Libye a mis en échec la tentative du premier ministre rival de s'emparer du pouvoir hier dans la capitale. La journée d'hier a été marquée par des combats entre groupes armés. Des tempêtes de sable dans plusieurs pays du Moyen-Orient, Irak, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar et Émirats Arabes Unis. Cet épais nuage de poussière a recouvert la capitale saoudienne dans plusieurs pays de la région. Ces mauvaises conditions météo ont provoqué des hospitalisations, des fermetures d'écoles et des perturbations du trafic aérien. Le Maroc a supprimé l'obligation du test PCR pour entrer sur son territoire. Une décision qui va permettre de favoriser le retour cet été des touristes et des Marocains résidant à l'étranger. La décision a été prise en raison de l'amélioration des conditions sanitaires dans le royaume. À noter que le pass sanitaire reste obligatoire pour accéder au territoire marocain. Il y a quelques jours, Mohamed Ben Zayed, surnommé MBZ, est devenu président des Émirats Arabes Unis. Homme fort du pays depuis plusieurs années, il a succédé à son frère, mort vendredi. Le président Macron a effectué à Abu Dhabi son deuxième voyage depuis sa réélection. L'analyse du politologue Qatar Abou Diab.
MBZ, le cheikh Mohamed Ben Zayed, qui a été depuis un certain moment le prince héritier de l'Émirat d'Abu Dhabi, l'un des piliers de cette fédération des Émirats Arabes Unis, et l'homme fort de son pays depuis la maladie de son frère qui venait de mourir, Cheikh Khalifa Ben Zayed, Ça représente quand même un tournant pour les Émirats. C'est lui qui a quand même lancé la diplomatie d'ouverture. Et il a été aux côtés de son frère et de l'émir de Dubaï et des autres Émirats pour installer, pour renforcer une expérience fédérale réussie, unique dans le monde, un pays prospère et en même temps un pays qui a son poids diplomatique, qui a son rôle géopolitique et son poids économique. Tout ceci a fait des Émirats, grâce au talent aussi de MBZ, un interlocuteur valable, un partenaire stratégique de la France et des pays occidentaux, un pays ouvert aux autres pays de la zone et qui représente avec son alliance avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte les noyaux durs du système régional arabe.
Et c'est la raison pour laquelle le président Macron a tenu à rendre hommage à son frère décédé.
Vous savez, le président Macron connaît bien les règles d'usage, les traditions, l'importance des gestes, comme ces gestes envers ces pays. Toutefois, depuis la fondation des Émirats Arabes Unis dans les années 70, son fondateur, le père de l'actuel président, Cheikh Zayed Ben Al Nahyan, s'est distingué dans sa relation avec la France, surtout avec Jacques Chirac. Et depuis, il y a un partenariat stratégique sur tous les plans politique, culturel, économique, éducatif. Il y a une section de Louvre à Abu Dhabi, il y a une section de la Sorbonne, il y a une base militaire maritime, une base militaire aérienne française là-bas, il y a une coopération tout azimut, et pour cela il y a investissement mutuel entre les deux pays et il y a surtout une coordination diplomatique pour des problèmes, pour de résoudre des crises de la Libye au Yémen et ailleurs. Même la normalisation des Émirats Arabes Unis avec Israël a été perçue avec un regard positif en France. Tout ceci donc a fait des Émirats un interlocuteur privilégié et pour cela cette visite du président Macron s'inscrivait dans ces cadres.
Et les Émirats Arabes Unis ont bien sûr été rassurés par la réélection d'Emmanuel Macron. C'est une question de stabilité aussi pour les Émirats.
Oui, tous ces pays observaient l'évolution de la situation en France. La France, pour la plupart des pays des Golfes arabes, un pays stratégiquement très important comme une porte pour ses relations avec l'Europe et aussi un interlocuteur, comme je disais, valable. Et il y a beaucoup d'intérêts mutuels entre les Émirats et la France et il y a un désengagement mutuel. Et je pense le fait que les deux leaders, là, les deux dirigeants, le président Emmanuel Macron et MBZ, se connaissent très bien. Ils sont liés par une relation, je dirais même amicale. Tout ceci facilite le renforcement des relations bilatérales.
Le politologue Qatar Abou Diab. En Algérie, le gouvernement donne des explications sur la mort de Hakim Debazi, arrêté en février pour des publications sur les réseaux sociaux en lien avec le Irak. Selon le pouvoir, ce détenu d'opinion mort en prison en avril est décédé de cause naturelle. Sa famille a engagé une action en justice contre l'État pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. En France, après la décision de la mairie de Grenoble d'autoriser le burkini dans les piscines municipales, la réaction du ministre de l'Intérieur. Pour Gérald Darmanin, ce choix est une inacceptable provocation communautaire, contraire à nos valeurs. Il a demandé au préfet d'agir contre la décision du conseil municipal. Le blocage de cette mesure est possible suite à une disposition introduite par la loi sur le séparatisme votée en août 2021. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a répliqué en invitant le ministre à relire la loi de 1905. Pas de conseil des ministres ce mercredi. La nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, nommée lundi, n'a pas encore constitué son gouvernement. Le conseil des ministres a été reporté à une date qui n'a pas été précisée. L'invité de Pluriel hier soir était David Amiel, candidat de la majorité présidentielle dans la 13e circonscription de Paris, et il a évoqué l'une des promesses d'Emmanuel Macron consistant à rendre plus attractif le métier d'AESH, ces personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école.
Dans les 5 années qui sont écoulées, nous avons commencé à revaloriser ce métier avec la revalorisation du métier d'AESH, l'augmentation y compris de leurs revenus de 600 euros par an à peu près. Il faut aller désormais beaucoup plus loin en les passant à temps complet. Aujourd'hui, une AESH travaille en moyenne 25 heures par semaine. Il faut leur permettre d'aller à 35 heures pour deux raisons. D'abord pour l'accompagnement des enfants et permettre d'éviter des ruptures dans l'accompagnement, de pouvoir vraiment les encadrer tous les jours autant que de besoin. Mais aussi pour ces personnes elles-mêmes, pour leur éviter d'avoir à faire des temps partiels et avoir accès à un temps complet avec ce que ça veut dire en termes de salaire et de stabilité de l'emploi.
David Amiel, candidat de la majorité présidentielle dans la 13e circonscription de Paris, il était l'invité de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. À Marseille, deux hommes ont été tués dans la nuit dans deux arrondissements distincts. L'un a été tué par balle, l'autre par arme blanche. La police n'a établi aucun lien entre ces deux homicides. Deux invités dans Pluriel ce soir à 19h et 23h. Sophia Ossini, candidate aux législatives dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, et à 19h15 et 23h15, Mélissa Caraca, candidate de la majorité présidentielle dans la 4e circonscription de Gironde. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.